Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneau.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Il est 8h sur Europe 1, merci d'être avec nous.
Il est trop tôt aujourd'hui pour dire si on va vers des reconfinements locaux larges.
Après un printemps confiné, devra-t-on passer l'automne à la maison face aux courbes qui ne s'inversent pas? Emmanuel Macron envisage toutes les options.
Et peut-être s'inspirera-t-il de nos voisins. Plusieurs pays européens ont déjà décidé de reconfiner la population, exemple au Pays de Galles dans un instant.
Pour l'heure, c'est donc un couvre-feu qui s'applique en France, mesure étendue aujourd'hui à 54 départements. Certains ont profité de leur dernière soirée de liberté hier, c'est le cas des supporters du Stade Rennais.
Et puis ce sont des lieux parfois intimidants, souvent majestueux. Les opéras de France vous ouvrent leurs portes tout ce week-end.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Jeudi dernier, Jean Castex évoquait des mesures beaucoup plus dures dans les semaines à venir. Eh bien, Emmanuel Macron a de nouveau agité cet épouvantail hier.
En précisant plus clairement ce qui pourrait nous arriver d'ici Noël si les courbes de l'épidémie ne s'inversent pas. Des reconfinements locaux sont envisageables. Le chef de l'État était hier dans un centre hospitalier de Pontoise. L'exécutif ne s'interdit rien, Aurélie Herbeumont.
Rien n'est exclu, dit-on à l'Élysée, comme en écho, un proche du Premier ministre l'admet. On ne peut plus exclure qu'il y ait des confinements locaux. L'idée n'est plus taboue, pas même dans la bouche du chef de l'État, alors que le couvre-feu vient tout juste d'être étendu.
Ces mesures n'ont pas vocation à être réduites, mais elles seront peut-être renforcées si elles ne sont pas suffisamment efficaces. Soit en s'étendant géographiquement, soit en regardant aussi les lieux, les moments où, au fond, l'épidémie se propage le plus vite, pour réduire à chaque fois ces occasions. Et donc, il est trop tôt aujourd'hui pour dire si on va vers des reconfinements locaux larges.
Les indicateurs seront examinés en milieu de semaine prochaine pour voir s'il y a stabilisation ou s'il faut envisager des restrictions complémentaires pour la suite. Couvre-feu aux horaires plus drastiques, fermeture de certains lieux ou quartiers, voire confinement local, la mise sous cloche du pays restant le scénario catastrophe à éviter. Le but, c'est de trouver des mesures pour casser l'épidémie, selon un proche du chef de l'État, sans trop faire peser de contraintes sur les gens. Un et en même temps délicat à mettre en œuvre, vu les chiffres de contamination des derniers jours.
Aurélie Herbeumont, et ces chiffres, justement, ils continuent de progresser de manière inquiétante. On a passé hier la barre du million de cas recensés dans le pays. Désormais, 15% des tests réalisés reviennent positifs. Ce taux était seulement de 4%. Le mois dernier.
Mais pour tenter d'inverser ces courbes, c'est donc un couvre-feu qui s'applique aujourd'hui dans 54 départements. Mesure insuffisante pour le médecin réanimateur Arnaud Chiche qui dénonce le manque de courage politique.
À part serrer la main des soignants, Macron n'a rien dit. C'est pas très sérieux. Et je pense que dans les Hauts-de-France, l'Île-de-France, notamment, le couvre-feu aurait dû être instauré il y a plus longtemps en fait. Mais bon, ce gouvernement est en retard. Il ne travaille pas. Et comme tout enfant qui ne travaille pas, il essaye de compenser à la fin et il fait n'importe quoi. Donc en fait, si vous voulez, il y a des choses qui sont faites, mais tout est fait un petit peu en dépit du bon sens. On aurait pu répartir les forces de réanimation, par exemple, c'est-à-dire déployer les équipes de réanimation un peu partout, dans des unités avec des lits, pour démultiplier la capacité d'accueil en réanimation. Mais évidemment, ils n'ont pas travaillé, donc ils n'y ont pas pensé. Je trouve ça dramatique. Le Covid va être dans nos vies pendant toute la vie, en fait. Ça va jamais s'arrêter. Et donc, il va y avoir une crise 3, une crise 4, une crise 5. Et si jamais il n'y a pas une conscience politique qui réalise le besoin absolu d'un investissement massif dans la santé, nous allons vivre condamnés au rythme des couvre-feux et des confinements.
Arnaud Chiche, médecin réanimateur, joint par Gian Bergawi. Au-delà de nos frontières, nos voisins européens affrontent également cette deuxième vague. L'Allemagne a passé ce matin la barre des 10 000 morts. Plusieurs pays ont même décidé de reconfiner leur population, comme au printemps. C'est le cas de la République tchèque, de l'Irlande ou encore du Pays de Galles, où se trouve pour Europe 1 Anaïs Cordoba.
L'artère commerciale de Cardiff, habituellement bondée, est presque déserte. Seuls quelques livreurs à vélo la traversent à toute vitesse. Dans un supermarché resté ouvert, Lee, commercial au chômage technique, est venu chercher de quoi manger. C'est désormais l'une des seules conditions pour sortir de chez soi au Pays de Galles.
Bien sûr, je vais respecter les règles, mais c'est très dur de rester à la maison à ne rien faire, à regarder des conneries à la télé. Le premier confinement, c'était de la torture psychologiquement. Et là, ça recommence.
Étudiant confiné avec ses 5 colocataires, Joseph, lui, s'occupe à réviser.
Je ne peux plus voir mes amis. Je peux toujours les appeler, mais ce n'est pas pareil que de les voir, de discuter, d'aller au pub. C'est bon pour mes études, mais on s'ennuie parfois.
Derrière les portes closes de son restaurant italien, Ricardo cuisine des pâtes fraîches à faire livrer. En cette saison, le week-end, il aurait dû servir près de 300 couverts.
Ça ne va pas rattraper le manque à gagner, mais c'est mieux que rien. Avec l'aide du gouvernement, on peut payer les salaires et les factures. On essaie juste de maintenir la tête hors de l'eau et de survivre à cette période.
Selon certaines estimations, ce nouveau confinement pourrait coûter près de 600 millions d'euros à l'économie galloise. Cardiff, Anaïs Cordoba, Europe 1.
En France, nous n'en sommes pas encore là, mais les députés tout à l'heure doivent valider la prolongation de l'état d'urgence sanitaire au moins jusqu'au 16 février prochain.
Et donc valider ce couvre-feu étendu à 54 départements. Deux tiers des Français sont concernés et devront être chez eux à 21h ce soir. Hier, les habitants ont eu la permission de minuit. Dernière soirée dehors avant des semaines de nuit confinées. À Rennes, plusieurs milliers de personnes en ont profité pour aller au stade assister au match de Ligue 1 face à Angers. Charles Guyard.
À 22h50, lorsque le coup de sifflet final a retenti au Roazhon Park hier, ce n'est pas seulement un match qui s'est terminé, mais plus généralement les prochaines soirées foot au stade. Car désormais ici, les rencontres programmées le soir, il faudra les suivre à la maison, au grand regret des supporters rennais comme Damien.
C'est la dernière avant le couvre-feu, donc voilà, on va regarder les matchs à la télé, en famille. C'est pas pareil sur le canapé que dans les stades. Il faut aussi prendre des précautions, on voit bien que le contexte est quand même un peu tendu en ce moment.
Depuis cette nuit, c'est donc chacun chez soi, entre 21h et 6h du matin. À Rennes comme à Angers, ville que les joueurs du Maine-et-Loire ont d'ailleurs rejoint après le match dans leur bus conduit par Michel.
Alors on est arrivé à Angers à 1h du matin, après le couvre-feu.
Du coup, comme tout le monde, l'ensemble des passagers se devait d'être en règle.
Chaque joueur dans le bus aura son attestation. S'ils ne l'ont pas, c'est 32 personnes qui sont verbalisables. On est comme tout le monde.
Et si la situation sanitaire le permet, les deux clubs peuvent encore espérer jouer devant du public le week-end prochain, puisque Rennes accueillera Brest à 17h et Angers recevra Nice à 15h. Des horaires qui laissent le temps aux quelques supporters de rentrer chez eux avant le couvre-feu.
Merci.
Rennes, Charles Guyard, Europe 1.
Sur le terrain, sachez qu'Angers a battu Rennes de buts à 1 et il faut s'y habituer. Ce soir, c'est dans un Parc des Princes complètement vide que le PSG affrontera Dijon. Et puis, dernier match de la journée, Marseille se déplace à Lorient.
Et c'est huis clos, c'est couvre-feu, y compris dans les stades. Toutes ces mesures sanitaires qu'il faut faire accepter à la population. On en parle juste après ce journal avec le maire de Nancy, Mathieu Klein. 8h07, vous restez avec nous dans un instant. On vous raconte les 40 heures d'interrogatoire de Nicolas Sarkozy face au juge d'instruction. A tout de suite.
Europe 1, votre matinale info, Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal de Marguerite Lefebvre, il a passé 40 heures dans le bureau du juge d'instruction. Nicolas Sarkozy a tenté de se défendre, vaille que vaille.
Lors d'une audition il y a 15 jours et dont on a les détails aujourd'hui, l'ancien chef de l'État a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il est mis en examen 4 fois dans l'affaire du supposé financement libyen de sa campagne de 2007. Il est poursuivi notamment pour association de malfaiteurs, ce qui est une première pour un ancien président. Nicolas Sarkozy s'est donc défendu, visiblement agacé. Gladys Laffitte.
Les auditions ont duré 40 heures. 40 heures durant, l'ancien président se défend ardemment, parfois exaspéré, souvent excédé. Comment puis-je prouver quelque chose que je n'ai pas fait ? C'est à devenir fou, à se taper la tête contre les murs. Ce que les juges veulent savoir, c'est si Nicolas Sarkozy a délibérément laissé ses proches et leurs intermédiaires officieux tenter d'obtenir et obtenir de l'argent libyen pour financer sa campagne, montant estimé à plusieurs millions d'euros. Vous n'avez ni les preuves de l'arrivée, ni les preuves de la sortie concernant l'argent. Où est l'argent alors ? Rétorque-t-il au magistrat. Au cœur de ce supposé pacte corruptif, les deux intermédiaires, Ziad Takieddine et Alexandre Djouri, en lien étroit avec Brice Hortefeux et Claude Guéant, lien dont Nicolas Sarkozy n'est pas informé, dit-il. Claude Guéant est-il crédule à ce point pour se faire rouler dans la farine pendant des années par Ziad Takieddine, demandent les juges. Réponse de l'ancien chef de l'État, il faut bien le croire, hélas. Selon lui, ce n'est donc pas parce que son ex-bras droit a fait des erreurs, a manqué de discernement, je cite, que cela fait de Nicolas Sarkozy incorrompu.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Une semaine après l'assassinat de Samuel Paty, le gouvernement veut renforcer la loi en sanctionnant les auteurs de messages menaçants sur les réseaux sociaux, en protégeant davantage les fonctionnaires. Voilà quelques-unes des propositions issues du Conseil de défense convoqué hier à l'Élysée. Et puis Jean Castex pourrait annoncer ce matin de nouveaux dispositifs d'aide à l'insertion, d'aide aux jeunes également. Le Premier ministre est en déplacement sur le thème de la pauvreté.
L'événement avait été décalé en raison de l'épidémie. La 14e édition de Tous à l'Opéra prévu au mois de mai se déroulera finalement ce week-end.
L'occasion de vous évader un peu d'ici demain soir en respectant bien sûr les gestes barrières. Pendant 48 heures, vous allez pouvoir vous immiscer dans cet univers et découvrir les coulisses feutrées des opéras. Lord d'Autriche.
Après une période d'abattement, les salles d'opéra se sont adaptées au contexte. Moins de public lors des concerts, des programmations sans entracte, des œuvres plus courtes. Mais ils sont là, les chanteurs d'opéra. Et durant tout ce week-end, vous pourrez les rencontrer dans les 22 opéras de France. La chanteuse lyrique Karine Dehaie, marraine de l'opération Tous à l'opéra cette année, est prête à accueillir le public.
Et je disais effectivement que je me sentais beaucoup plus en sécurité dans une salle d'opéra que même dans un train, parce que voilà, le plafond ne fait pas 2 mètres de haut. Je vous rappelle qu'il fait presque 50 mètres de haut. Mais c'est vrai que je dis aux gens de venir nous soutenir. On a beaucoup souffert pendant des années d'une image élitiste. Et effectivement, il faut vraiment que les gens, on leur permette de franchir cette porte et de venir découvrir justement aussi tous les métiers qui gravitent, tous les gens aussi ben voilà, qui nous maquillent, qui nous habillent, qui nous fabriquent les costumes. Souvent, les gens nous disent « j'ose pas aller à l'opéra parce que je ne connais pas ». Mais beaucoup de gens aussi vont au musée sans connaître. On n'a pas besoin de connaître pour avoir une émotion.
Et Karine Dehaie donnera ce week-end 2 masterclass en public à des jeunes tout juste diplômés du Conservatoire supérieur de Paris à l'Opéra Comique.
Un reportage de Laure d'Autriche pour Europe 1. Un mot de rugby pour vous signaler la rentrée du 15 de France ce soir. Premier test match face au Pays de Galles, ce sera au Stade de France à 21h10. Et comme toutes les heures ce matin, on fait un point sur vos conditions de circulation.
Le radioguidage sur Europe 1 avec les opticiens Atoll pour être sûr de bien voir aussi la nuit au volant.
C'est une nouvelle journée de départ en vacances et Diane Berger, ça roule plutôt assez bien.
Effectivement, c'est très fluide, mis à part quelques ralentissements sur la 57 à la sortie de Toulon, la 85 entre Tours et Angers, où ça freine un peu dans l'Est, sur la 31 de Dijon à Nancy et sur la 36 dans les deux sens entre Belfort et Montbéliard. Mais rien de bien méchant ce matin, ça rallonge votre trajet d'environ 10 minutes maximum. Et attention, si vous êtes sur la 36, toujours un obstacle a été signalé sur la route à proximité de Mulhouse. Sinon, tout roule, le trafic devrait devenir plus dense, en revanche en fin de matinée. Autant que possible, évitez donc de prendre la route à l'entrée et à la sortie des grandes villes aux alentours de 11h.
Conseil signé Diane Berger.
Tout roule, ça me parle. Bah tant mieux. Et vous écoutez Europe 1 en voiture, bien sûr, ou à la maison, ou partout où vous êtes. Merci, c'était le journal de Marguerite Lefebvre.